Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4.
Saison 4, dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archi.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'agence Cove Architectes. Bonjour Axel Cornu et Gabriel Verret.
Bonjour.
Bienvenue dans Comme d'Archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête de votre agence Cove. Cove est une agence assez récente, créée en 2018. Vous vous dites passionné par la confrontation des échelles, des matières et des usages. En effet, l'on remarque dans votre production une forte appétence pour la matière brute, ou presque, ainsi qu'un esprit ingénieux apte à passer du petit au grand projet avec toujours, semble-t-il, un pas de côté. Pourtant, votre production est d'apparence classique. Nous allons décrypter tout ça. J'espère que ça vous convient.
C'est parfait. Je pense que on va la garder.
Pour nous. Voilà. Ouais, on peut vous la piquer.
On va vous la voler.
Ah, bah avec,
on repart avec ça.
Voilà, vous pouvez vous l'approprier maintenant. Alors, commençons par le début. Quel est votre parcours? Quelle a été votre jeunesse? Où s'est ancrée votre envie d'architecture? Quelles ont été vos études? Quand et comment avez-vous commencé votre activité d'architecte? On commence par
Axel
Cornu.
Eh bien, moi j'ai eu un parcours du combattant, on va dire. Après le lycée, j'ai été refusé d'école d'archi. Donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué, une MANA, dans une école d'art privée. Et ensuite, j'ai fait un BTS design d'espace en alternance, ce qui m'a permis très rapidement de travailler en agence d'architecture d'intérieur, dans laquelle j'ai pu un peu, dès mon jeune âge, appréhender un peu le métier d'architecte, même si je savais que c'était ce que je voulais faire depuis un moment.
Alors justement, ce désir, il vient d'où? Vous savez?
Celui-là, je ne peux pas l'expliquer.
Ouais.
C'est vraiment jeune. Je me souviens, quand j'allais au sport, je prenais le bus et je voyais des chantiers et je me disais, c'est ça que je veux faire. Mais pas forcément dans le côté ingénierie ou travaux. Je me disais, je veux dessiner les choses qui sont en train d'être construites. Et donc, ça n'a pas été si facile. Parce que après mon BTS, j'ai aussi été refusé d'aller à l'école d'architecture. Ah. Donc, je suis allé travailler en agence. Et cette fois-ci, dans une agence d'architecture, dans laquelle mon patron, qui avait une bienveillance et surtout l'intelligence de me dire, je veux bien que tu viennes travailler chez moi, mais tu travailleras pas à plein temps parce que il faut que tu continues à faire des études. Peut-être que travailler à plein temps, ça m'aurait donné envie de continuer à travailler sans jamais vraiment aller vouloir retourner à l'école. Donc, j'avais des cours d'architecture avec la mairie de Paris, 2 jours par semaine. Et donc, je travaillais 1 an dans cette agence pour pouvoir retenter l'école d'archi. Moi, je voulais aller à la Villette. Parce que j'avais des amis là-bas, j'y suis allé, j'ai senti quelque chose, une atmosphère, quelque chose d'intéressant, où en fait on était là pour l'architecture. Et faut voir un peu l'état de l'école, hein, c'est vraiment les étudiants qui font l'école, c'est ça qui est intéressant, les étudiants et les profs. C'est vraiment, c'est pas un magnifique bâtiment, mais tout ce qui se passe à l'intérieur est assez intéressant. Et on le voit de l'extérieur. En tout cas, c'est ce qu'on ressent quand on le visite ou quand on fait une journée de portes ouvertes. C'est un peu comme ça que je l'ai vu. Et là, vraiment, je ciblais une école. Et encore une fois, j'ai été refusé. Donc là, on a pas mal de refus. Mais j'avais la chance d'avoir un collègue qui m'a dit non, c'est bon, on arrête, on va aller à l'école ensemble. C'était un ancien de l'école. On est allé à l'accueil, on a rencontré la personne qui gère l'accueil, qui nous a dit il faut que vous rencontriez tel prof. Parce que moi, je voulais rentrer en deuxième année, puisque j'avais déjà un petit cursus. Et on a pris un mail, on a envoyé un mail, on a eu une réponse, un rendez-vous s'est fait. J'ai pu présenter mon travail, j'ai pu présenter mon parcours, mon book. Et je me souviendrai toujours de cette phrase où je le suis à l'administration, il ouvre une porte et il dit « Madame, vous inscrivez le jeune homme en deuxième année d'architecture.
Oh. »
Et là, il y a un soulagement. Ouais. Et là, les choses sérieuses commencent. Non, c'était un vrai bon moment, cette petite journée qui a changé ma vie, finalement.
Ouais.
Et donc, ça m'a amené...
Pas de découragement, c'est bien.
Non, je pense qu'il ne faut pas. Et surtout pour les étudiants, c'est pas si simple aujourd'hui d'aller dans les écoles qu'on souhaite avoir.
Intégrer.
Et ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément un parcours. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'après il y a le parcours de Gabriel qui est complètement différent du mien, mais il n'y a pas un seul parcours et que on avait nous des gens qui étaient des anciens charpentiers à l'école. Enfin, vous voyez, c'est. C'est intéressant.
C'est très divers, c'est ce qui fait toute la richesse, je pense, des approches. Alors, peut-être sur ce désir d'architecture, Gabriel, et sur le cursus.
Oui, bien sûr. Moi, c'est marrant parce que ça a été un tout petit peu le sentiment d'Axel, mais en beaucoup plus condensé, presque en plus rapide. C'est-à-dire que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, moi, jusqu'à mes 16 ans. Je passais mon temps à dessiner en cours, à dessiner chez moi. Je crois que si j'avais dû décider quelque chose, j'aurais voulu devenir dessinateur de BD, quoi, à l'époque. Et sauf que, à l'approche de la fin du lycée, en fait, j'ai eu un peu cette idée qui paraît un peu bête aujourd'hui, mais qu'il fallait que je trouve un métier sérieux. Donc, je ne sais pas pourquoi, pour moi, un métier sérieux où je pouvais dessiner, c'était architecte. J'aurais pu penser illustrateur, designer, graphiste, tout un tas de choses, mais j'ai pensé architecte. Donc, je me suis inscrit dans toutes les écoles possibles. Et catastrophe, j'ai été pris nulle part. Donc, ce qui est complètement normal quand on retrace le fil, je faisais que dessiner en cours, j'écoutais pas, j'avais pas un dossier fantastique, donc c'était assez normal, mais pour moi, je tombais un peu dénu. Donc j'ai voulu m'inscrire en MANA, je me suis inscrit en MANA, et là, j'ai eu une très très bonne surprise. C'est que, juste après mon bac, au tout début de l'été, j'apprends que je suis repêché par la Villette en liste d'attente. Donc je passe mon été un peu à me ronger les ongles et j'apprends finalement le tout début septembre, 3 jours avant de commencer la MANA, qu'en fait je suis pris à la Villette, inscrit en première année. Donc j'arrive un peu, je m'étais préparé tout l'été à complètement autre chose, j'arrive un peu en plus avec cette idée que j'étais pas encore sûr et certain que c'était ce que je voulais faire. Et cette première année, en fait, j'ai rencontré vraiment, j'ai découvert un univers incroyable, j'ai eu des profs qui m'ont beaucoup inspiré. Et j'ai suivi des cours aussi qui, en fait, m'ont enlevé tous mes doutes et m'ont donné cette impression très bizarre, mais que j'avais trouvé une forme de vocation, quoi. C'était ça que je voulais faire de ma vie. Donc, ça a continué comme ça pendant les premières années. Et il faut avouer que, à l'approche de la fin de la licence, à nouveau, j'ai ressenti un petit coup de mou. Mais ce qui est absolument génial avec la Villette, c'est qu'ils proposaient des échanges à l'étranger. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Japon, à Tokyo, où j'ai passé un an à Tokyo Tech. Et là, ça a à nouveau un peu tout chamboulé. J'ai découvert des profs fantastiques à nouveau, notamment Tsukamoto de l'Atelier Bao. On avait des projets qui étaient absolument incroyables aussi. Il y avait, je sais pas, on passait à la Villette, ce qui était très utile, de l'apprentissage du dessin du logement social, de l'équipement public plutôt classique, on pourrait dire, comme une bibliothèque ou un musée. On passait à, je sais pas, une salle de jeu de 11 étages, la transformation d'une école en centre culturel. Des projets où il fallait dessiner à la manière de Kazuo Shinohara, par exemple, qui était un grand maître architecte japonais. Et du coup, je suis vraiment revenu après cette année-là avec vraiment une envie de continuer à découvrir, à apprendre presque en dehors du cadre de l'école. En tout cas, de pas retourner à la Villette tout de suite. Et là, j'ai fait une année de césure où j'ai pu travailler un an chez LAN Architecture. On pourrait dire, même si bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais à taille humaine, c'est-à-dire qu'il y avait une vingtaine de personnes.
Ouais.
Donc on continuait à avoir un rapport possible avec de l'associé au stagiaire que j'étais. On pouvait quand même échanger et apprendre. Et en plus, c'était une période très spéciale où l'agence travaillait sur beaucoup de concours qui étaient passionnants. Par exemple, le théâtre du Maillon de Strasbourg qui est sorti depuis, qu'ils ont remporté et qui était un projet aussi très impressionnant pour moi à l'époque. Et du coup, ça m'a permis de voir ce qu'était le métier, de confirmer une fois de plus que c'était ce que je voulais faire. Et en plus de ça, bon, bah, j'ai utilisé toutes mes économies d'une année d'agence pour aller me faire un road trip, bon, plutôt un bus trip aux États-Unis, traverser d'est en ouest les États-Unis sur les traces des architectures de Louis Kahn et Frank Lloyd Wright. Et qui fait que quand je suis revenu pour ma cinquième année à la Villette, j'étais très, très, très motivé. Quoi.
Ouais, regonflé.
Regonflé à bloc.
Bon. C'est ça qui est assez intéressant à la Villette et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais le faire. C'était de pouvoir partir en Erasmus ou en échange en quatrième année. C'est une école qui vous permet, quoi qu'il arrive, si vous voulez partir, vous partirez. Et donc moi, en quatrième année, je suis parti en Norvège parce que j'avais cette envie d'aller découvrir les pays scandinaves.
Où en Norvège ?
J'étais à Trondheim, au nord.
Au nord.
Pas très loin du cercle polaire.
D'accord.
Là-bas, il y avait tout un cursus sur le développement durable, le bois. Et donc c'est des pays où, à chaque fois, on nous citait la Scandinavie pour les sujets écologiques. Et donc, il fallait aller voir par soi-même. Et voilà, ça retrace un peu notre parcours ensemble, que ce soit à l'école, où vous voyez, on a, pareil, un parcours complètement différent, pour aller ensuite se rencontrer en cinquième année.
D'accord. Alors, donc, tous les deux regonflés, vous faites votre cinquième année et vous êtes diplômés la même année, c'est ça ?
Exactement.
En fait, on se rencontre à la Villette en cinquième année.
Oui.
Ce qui est en soi super tardif pour rencontrer un futur associé. Mais il y a ce truc assez étrange où, dès qu'on se rencontre dans ce fameux cours de projet, il y a une espèce d'évidence, c'est qu'on a envie de travailler ensemble et potentiellement de travailler ensemble longtemps. Donc, on décide de faire notre PFE ensemble, puisque c'était un PFE en groupe.
En fait, la rencontre en cinquième année, elle est importante parce que on cadre un peu nos manières de travailler. On est complètement différents, l'un et l'autre, mais on pense très complémentaires. Donc, derrière, après le diplôme, on sait que l'un et l'autre, on doit aller faire notre HMONP, donc l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre.
Ce mot barbare.
C'est bon, voilà. C'est pour ça que tout le monde dit HMO.
Ouais.
Et donc, chacun son agence. Et même au niveau des agences, quelque chose de complètement différent. Moi, très grosse agence de l'Ouest parisien, qui construit beaucoup d'immeubles dans toute la partie ouest de Paris et Première Couronne, où on était presque 70. Donc c'est quand même une belle agence. Et Gabriel, ben encore une fois, une agence à taille humaine cette fois-ci.
Ouais, cette fois c'était chez Philippe Rizzotti, architecte, qui était aussi un ancien de la Villette, et chez qui j'ai passé effectivement un an et demi à travailler sur des projets extrêmement intéressants, dans une démarche assez éloignée de ce que je connaissais à l'époque, très inspirée par l'architecture modulaire, et aussi transformable, j'ai envie de dire évolutive. Donc j'en garde des très bons souvenirs.
Et alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur de votre association et de la fondation de votre agence ?
Ça s'est fait assez naturellement. Moi, j'avais commencé à faire des projets seuls, mais d'appartements, vous savez, au début, vous faites pour les amis. Et quand on se voyait avec Gabriel, on se disait, il faut qu'on commence quelque part, il faut qu'on fasse un premier projet ensemble. Ce premier projet est arrivé. C'était un petit appartement de 40 mètres carrés pour un ami. Et de fil en aiguille, d'un projet, on en a eu un deuxième. Et puis, à un moment donné, on se dit, bon, bah, c'est bon, on a ce qu'il faut pour travailler tous les deux à temps plein. Donc, on y va.
C'est vrai que quand même, a posteriori, il y a quelques projets aussi qui nous ont donné suffisamment de visibilité. On s'est rendu compte plus tard. Pour se dire, ok, c'est bon, on sait qu'on a on a le coffre financier, le nombre de commandes suffisantes pour investir aussi, parce que c'est un investissement en réalité, dans la création d'une structure commune. Et il y a notamment un projet qui a été assez fondamental pour nous. C'était un concours pour la rénovation d'un restaurant d'entreprise pour un grand groupe de mode. C'était assez étonnant même pour nous d'avoir la chance de participer à ce concours-là. En fait, c'était des amis restaurateurs qui avaient été invités à proposer une nouvelle offre culinaire et il devait proposer aussi des architectes pour transformer l'espace en même temps. Et donc on a eu l'opportunité comme ça, ils nous ont appelés pour faire équipe et on a eu l'opportunité de participer à ce concours. On a fait une proposition qui, par chance, a été retenue et est arrivée jusqu'au dernier stade après de nombreux rebondissements, donc est devenue finaliste et à la fin a remporté le concours grâce au vote des employés. Donc, confirmation qu'un client, on allait dire, ou maître d'ouvrage institutionnel, peut nous faire confiance. Et il faut avouer que, on les a beaucoup remerciés de cette bienveillance-là, parce qu'en fait, à l'époque, on n'avait même pas de structure. C'était Axel et Gabriel. Et ça nous a permis de, à la fois d'avoir donc cette visibilité pour créer Cove en 2018, et aussi de gagner en légitimité vis-à-vis de futurs maîtres d'ouvrage qui nous ont confié des projets. Du coup, on en est persuadé aussi parce qu'ils avaient vu que d'autres clients plus établis nous avaient fait confiance.
Quel est le nom de ce projet ?
C'est le premier projet avec Kering.
C'est celui où il y a un patio ?
Alors, on a travaillé avec eux sur le patio et je pense que ça va être quelque chose sur lequel on va revenir. Mais ça, c'était vraiment le tout premier avec eux parce que c'est une collaboration qui perdure. C'était donc le restaurant d'entreprise. Et en fait, c'était assez intéressant parce que vous aviez une partie qui était classée. C'est dans un bâtiment magnifique, c'est l'ancien hôpital de la Hennec.
Ouais.
Donc, c'était aussi pouvoir accéder, nous qui rénovions des appartements, pouvoir aussi aller vers la rénovation de bâtis plus
important
et... Donc non, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant parce que ça permet d'avoir une certaine légitimité. Ça transforme aussi l'essai parce que effectivement, comme Gabriel disait, on était deux petites structures. Il fallait aussi se donner le temps. Quand on s'est dit tout à l'heure, on veut travailler ensemble, on s'est donné aussi une année en se disant, on va le faire. Mais avant de créer une structure, il faut qu'on voit si ça fonctionne.
Ouais. Alors justement, avant d'aller plus loin et de rentrer dans les projets, j'ai cette question qui est récurrente dans le Comme d'Archi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? C'est pas très loin pour vous. Vous avez peut-être plus ou moins déjà répondu, mais je vous laisse prendre la parole là-dessus.
Eh bien, je pense que c'est oui et non. Dans le sens où il y a oui parce que on avait l'envie de créer quelque chose, donc on a pu le faire. Et ça, c'est avoir ses propres projets. C'est quand même déjà quelque chose de formidable quand vous êtes jeune architecte. Créer une agence aussi, c'est un vrai défi au quotidien, de devoir gérer une structure et de faire en sorte qu'elle nous ressemble aussi. Parce que là, on raconte notre parcours, mais au quotidien, on doit faire perdurer une structure qui est un peu la vitrine de nous-mêmes. Et après, c'est plus dans la pratique où non, on ne s'attendait pas à ça par rapport à l'école, parce que, comme expliquait Gabriel, c'est l'échelle de projet sur lequel vous travaillez quand vous êtes étudiant. Ça va être des projets de grande ampleur, parfois urbains. Et comme vous mettez à votre compte, eh bien, l'échelle est quand même réduite. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on prend ça comme...
c'est une marge d'escalier à chaque fois.
C'est une marge d'escalier. Pour nous, c'est exactement ça. C'est chaque étape est importante. Il faut réussir la première marche pour aller sur la deuxième. Il faut être content de ce que vous faites à chaque fois sur chaque projet. On prend chaque projet comme un défi et on veut pas qu'il y ait deux projets où on n'est pas un peu fier, mais peut-être plus heureux d'avoir pu aller au bout de la conception, d'avoir fait quelque chose qui nous plaît. C'est aussi ça le quotidien, c'est de faire les choses qui nous plaisent. Et c'est effectivement une sorte d'accomplissement de pouvoir faire ça au quotidien. Le métier d'architecte, c'est quand même magnifique. Mais c'est plus que l'accomplissement en tant qu'architecte, avec des guillemets ou un majuscule, il n'est pas encore là, dans le sens où on a devant nous, l'escalier est très long, des années, voire des décennies. Ouais. Donc,
mais c'est bien ce que vous dites, parce qu'on sent qu'il y a une grande envie de faire des choses. Et c'est vrai que Vincent Lavergne, par exemple, ça m'intéresserait d'avoir votre point de vue sur cette réussite incroyable, cette énergie, en tout cas vu de l'extérieur, il est arrivé à quelque chose d'assez impressionnant.
Bah, nous, surtout, c'est surtout qu'on a une relation, on pourrait dire, avec lui, qui est très riche, selon nous, parce que c'est un peu comme si du professeur, il avait accepté un peu ce rôle de mentor, où il va chercher, chaque fois qu'il en a la possibilité, à faire profiter la jeune génération, c'est pas que nous d'ailleurs, d'opportunités nouvelles. Ça va être parfois l'opportunité de participer à des concours ensemble, parfois à des projets d'ores et déjà établis.
Mmh. Et d'ailleurs, quand vous parlez du succès de Vincent, nous, on l'a connu en tant qu'étudiant, c'était notre professeur. Et l'énergie qu'il pouvait avoir déjà à l'époque en correction, on la retrouve aujourd'hui quand il nous montre ses projets, quand on discute architecture avec lui. Et on n'est pas forcément étonné de là où il est aujourd'hui, parce que il déploie une énergie dans ce qu'il fait et ce qu'il veut faire qui est assez assez forte. Et nous, enfin moi je me rappelle très bien quand on était étudiant, c'était le professeur qu'on voulait un peu on voulait que architecturalement
de capter son attention.
On voulait capter son attention, on voulait qu'architecturalement ce qu'on propose, il puisse si on avait déjà une approbation de sa part, on était content. Et là aujourd'hui de pouvoir s'associer sur certains projets à son activité et à sa vision de l'architecture, ces projets, c'est...
C'est une nouvelle marche.
Ouais, c'est une nouvelle marche. Et donc, je ne sais pas si on en parle maintenant ou si c'est plus tard, mais pour nous, c'est important le côté transmission dans l'architecture. D'avoir quelqu'un de plus implanté, avec une agence qui fait des très beaux projets, qui peut nous accompagner, nous transmettre... parce qu'il nous donne énormément de conseils. C'est très important, et c'est aussi ce que nous, on essaye à notre petite échelle de faire au quotidien avec certains étudiants. On en reviendra peut-être
oui,
plus
après.
Tard.
En tout cas, une démarche généreuse et dans le partage.
En fait, c'est quelque chose dont on s'est rendu compte un peu en démarrant notre activité, c'est que c'est extrêmement difficile d'exister sans un certain nombre de soutiens. On ne peut pas vivre sans une forme de... j'allais dire, de bienveillance de gens qui sont plus en place. Je pense aussi aux maîtres d'ouvrage. Je pense aux architectes qui nous ont précédés, qui ont peut-être déjà rencontré le succès. Et certains pour lesquels on a déjà travaillé, certains qui ont été nos professeurs. Et on se rend compte qu'il y a chez beaucoup cette volonté de nous faire partager dès que ça est possible leur succès ou leurs opportunités. Et à chaque fois, on est extrêmement reconnaissant. Parce que c'est un peu ce qui fait cette possibilité, en fait, d'avancer toujours un peu plus et de faire des projets de plus en plus intéressants.
Alors justement, ces fameux projets. Alors, par exemple, j'écris dans Archistorm, j'ai une rubrique archi intérieur. Et justement, j'ai pu apprécier vos projets d'archi intérieur. Parce que vos premiers projets, c'est quand même ça, sur votre site, qui sont très fins. Et donc, je vous laisse la parole pour en parler, justement.
En fait, c'est un peu ce qu'on racontait tout à l'heure avec Axel, c'est que nous, notre entrée dans le monde de l'architecture à la sortie de l'école, elle s'est faite par l'architecture d'intérieur, par une découverte de ce que c'était que, finalement, des petits projets d'abord, qui ont été de plus en plus grands ensuite, mais des projets qui devaient vraiment s'intégrer à un lieu, le transformer mais finement, en respectant son histoire, se poser des questions vis-à-vis des usages qui existent pour savoir ce qu'on peut offrir, aussi penser aux habitants actuels et futurs. Donc il y a toutes ces considérations qui se sont mises en place à ce moment-là, qui se sont accompagnées petit à petit en fait la découverte des matières d'un projet. Il faut se dire qu'à l'école, on travaillait qu'avec des maquettes blanches. Et là, on a découvert avec l'architecture d'intérieur à quel point la matière était fondamentale pour même la compréhension d'un objet, pour même son appropriation, le fait qu'il devienne quelque chose qu'on aime et qu'on va utiliser. Et de là, on a aussi découvert la place fondamentale que prennent les artisans, avec qui on a noué des relations très fortes, qui en fait ont rendu possible tout simplement tout un tas de projets sur lesquels on a travaillé. Et tout ça, c'est par l'architecture d'intérieur qu'on l'a appris. D'abord par des appartements, puis restaurants, bureaux, tout un tas de choses qui sont passées de l'intérieur à la restructuration d'immeubles entiers parfois, ou même à l'extension d'immeubles, par exemple, avec cette surélévation qu'on avait réalisée.
Sur un immeuble de Jean de Mailly.
Exactement.
C'est ça. Et, oui, parce que c'est une architecture qui est belle.
Mais voilà. Jean de Mailly, qui était architecte du CNIT, de la Défense. Et c'était une de ses œuvres de jeunesse dans les années 50. Mmh. Et c'était tout un immeuble en structure poteau-poutre, béton, en cœur d'îlot. Et on a été appelé par le client, parce que c'est aussi ça, les projets, c'est des clients, des maîtres d'ouvrage qui ont besoin de vous pour aller au bout d'une idée et d'un projet. Et donc, c'était assez surprenant parce que quand vous arrivez sur cet immeuble, vous pensez que vous allez avoir une toiture terrasse, béton à croterre. Et finalement, en fait, vous vous retrouvez avec un petit toit en pente, avec une petite charpente bois et de la tôle. Vraiment, là, il y avait un petit côté pas terminé. Et sur cette toiture, le maître d'ouvrage souhaitait faire une surélévation. Et celle-ci a été faite en métal, afin d'alléger au maximum l'impact sur le bâtiment.
Vous avez dû déposer les petits pans de toiture.
Exactement. Alors ça, pour être très honnête, en une journée, il n'y avait plus rien.
D'accord.
Non, vraiment, je rigole pas, c'est de la tôle sur une petite structure.
Ils ont eu de la chance qu'il n'y ait pas d'infiltration, peut-être qu'il y en avait.
Non, effectivement, il n'y avait pas d'infiltration. Ouais. Et ça nous a permis de proposer un projet. Après, les contraintes du PLU de Paris ont fait que c'était un objet assez fin qui venait se poser comme ça sur le bâtiment de Jean de Mailly, et avec un extérieur. On proposait aussi une terrasse. Donc finalement, c'est un bel objet qui vient se poser sur un bâtiment presque emblématique, parce que qui avait été repéré par la commission du Vieux Paris notamment. Et ça, c'est un de nos premiers projets de construction où on a ce sujet de redensifier le bâti sur l'existant. Et c'était très intéressant.
Alors, Jean de Mailly, et après, il y a Jacques Calisse aussi, à Nanterre.
Oui, alors ça, c'est une autre expérience.
C'est un concours perdu.
C'est un concours perdu,
exactement. Ouais.
Qui était, là encore, du coup, avec Vincent, où en fait, on a eu une approche un peu... c'était une approche un peu punk, parce que c'était une question liée au patrimoine très dure, puisque cet endroit s'appelle le foyer Maurice Ravel, et a été fait par Jacques Calisse dans les années 70, si je ne dis pas de bêtises. C'était un ancien foyer pour musiciens, qui en fait était assez hallucinant, parce que c'est plein de petits modules de béton, chacun est une chambre étudiante avec un coin pour jouer de la musique. Et incroyablement introverti, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'ouvertures, juste des petites fenêtres d'angle. Et tous ces modules avaient été positionnés, c'était ce qu'on appelait l'architecture combinatoire et proliférante, et avaient été multipliés, positionnés sur tout l'étendue de la parcelle, en créant des espaces partagés, etc., qui marchaient très bien au début. Sauf que, année après année, il y a eu des épouvantables problèmes de gestion. Le bâtiment a très très mal vieilli. Jusqu'à ce que aujourd'hui, enfin à la veille du concours en tout cas, qui était l'année dernière, il n'y ait plus qu'une seule famille qui y habitait, je crois. Donc, en fait, on a fait une analyse et on s'est rendu compte que ces problèmes étaient un peu inhérents à l'architecture, c'est-à-dire que c'était quasiment impossible avec autant de petits modules d'entretenir un bâtiment qui avait autant de façades, autant de toitures. C'était impossible de lui proposer une quelconque performance énergétique intéressante, puisque c'était tout sauf compact. Il n'y avait pas assez de fenêtres, il y avait tout un tas de choses qui a fait qu'on a proposé, finalement, pour que au moins une partie du bâtiment ait un futur, d'en démolir la deuxième partie et de la remplacer par, en fait, deux constructions neuves inspirées à 100% par le travail de Calisse, notamment qui reprenait exactement la trame qu'il avait placée sur toute sa parcelle, et reprenant sa matière et associant du bois, puisqu'on associait aussi au module ancien des grandes ouvertures en bois, et du coup faire un dialogue entre l'ancien et le neuf, j'ai envie de dire, le plus pertinent possible, et qui permette de régler, en fait, tous les problèmes d'un coup. Ça n'a pas trop plu.
Calisse était intouchable ?
En fait, disons que tout un tas de personnes n'étaient pas très chaud à l'idée, effectivement, de modifier substantiellement cet endroit. Nous, notre point de vue, c'était que si on ne prenait pas la décision forte aujourd'hui, on risquait un jour de devoir tout démolir. Mmh. Donc, on a proposé ça. Maintenant, ils ont choisi, la ville notamment, a choisi un projet, si je comprends bien, qui démolit un peu moins. On espère sincèrement que, du coup, tous les problèmes seront résolus comme ça.
On rentre vraiment dans une question fondamentale, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de rénovation de notre bâti existant. Et finalement, on avait le parti pris vraiment, et on le portait. On portait l'idée qu'on ne faisait pas table rase du passé, mais on avait identifié des problèmes et qu'on pouvait les résoudre par une action contemporaine avec du bâti. Donc c'était lier les bâtiments entre les uns avec les autres, avec reprendre le système de la trame. Mais pour nous, il était aussi essentiel de pouvoir effacer les erreurs qui avaient été commises. C'est là où on rentre dans une question très délicate. C'est qu'effectivement, c'est un patrimoine bâti, mais doit-on forcément garder 100% du patrimoine, ou pouvons-nous aussi, en tant qu'archi contemporain, venir et finalement prendre possession du projet en disant, ben voilà, ce que nous on considère comme très important et au cœur du projet de Monsieur Callis, on le met en valeur, on le garde, etc. Et voilà, c'était vraiment une question, on marche sur des œufs, vraiment. Et
en même temps, certains n'hésitent pas à raser du patrimoine contemporain et à l'effacer complètement du paysage. Donc après, c'est souvent l'esprit de la commande qui donne la réponse.
Bien sûr.
Là-dessus. C'est vraiment tributaire des gens qui décident.
Oui, et là, ce qui est intéressant sur ce type de concours, c'est que les gens qui décident, ce sont les maires, les conseils municipaux, voilà, c'était des gens qui voulaient que ce soit le meilleur projet. Et là, ils ont considéré que le meilleur projet, c'était celui qui touchait le moins possible au patrimoine existant.
Alors, c'est vrai que sur ces projets-là, il faut énormément discuter aussi quand on peut, mais ce n'est pas toujours possible, pour connaître les intentions des maîtres d'ouvrage. Mais parfois, c'est des contre-propositions passent mieux que l'écoute totale. Enfin, on est toujours un peu dans l'incertitude, non ?
On a un peu toujours cette idée que nous, on essaie d'être toujours un maximum force de proposition. Par exemple, on se pose aujourd'hui énormément, en tout cas à l'agence, la question des ressources mobilisées. Et on essaie de prescrire autant que possible des matériaux qui vont être locaux, bio ou géosourcés, de réemploi. On va le faire sur tout un tas de projets différents. Mais on va rencontrer parfois une oreille très attentive auprès de la maîtrise d'ouvrage. Et parfois, ça va être bien plus compliqué. Et c'est vrai qu'on a rarement le dernier mot, même si, en général, on se bat sauvagement.
Oui.
Ça fait partie du métier, avec le maître d'ouvrage, de proposer, être force de proposition, d'écouter aussi. En fait, c'est un échange permanent. Et les projets sont constitués comme ça de va-et-vient entre les attentes, les propositions. Et les projets les plus réussis sont les projets où, quoi qu'il arrive, on va réussir à satisfaire le maître d'ouvrage qui est aussi le client, donc qui est à la commande, et nous satisfaire aussi dans l'acte architectural proposé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la constante évolution du projet en fonction parfois même d'une rencontre ou un rendez-vous. Vous voyez, quand on travaille sur des plus gros projets où on doit déposer des permis de construire, vous avez un rendez-vous à un moment donné avec peut-être la mairie, et là le projet va totalement changer, ou même avec un architecte des bâtiments de France. Enfin, voilà, c'est je pense qu'il faut accepter aussi de savoir se remettre en question
et de revoir sa copie, oui.
De revoir sa copie, parce que de toute façon on n'a pas la bonne idée. Voilà, on ne nous appelle pas, on griffonne, on gribouille, et voilà, c'est bon, vous avez ce qu'il fallait. C'est long.
Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez là aujourd'hui des projets un petit peu plus emblématiques, même si votre activité est relativement récente ? Quel projet phare, fort, vous souhaiteriez mettre en avant ?
Y a un projet notamment qui nous occupe beaucoup en ce moment. C'est celui pour la rénovation bloc-climatique d'une grange en Auvergne, plutôt un ancien corps de ferme. et qui nous a beaucoup occupés ces dernières années. En fait, c'est donc un petit bâtiment qui se situe dans l'Allier, à côté d'un petit village qui s'appelle Ébreuil. Le lieu-dit s'appelle Chamboira, donc c'est le nom qu'on donne au projet en général. Et en fait, c'est un patrimoine parfaitement ordinaire qui, en soi, quand on passe devant en voiture, on ne voit pas très bien l'intérêt.
Une grange.
Voilà, une grange. Et pourtant, on se rend compte qu'avec sa discrétion, quand on entre à l'intérieur, on découvre que, en fait, ce sont des murs de pierre maçonnés d'un seul tenant de 6 à 9 mètres de haut, une charpente qui nous paraît à nous extrêmement complexe, et en même temps avec une forme de rusticité où on se sent que ça a été construit par les fermiers qui ont habité là il y a 2 siècles.
Avec donc une forte matérialité.
Une matérialité très importante, et que notre intervention, puisqu'il s'agissait de la rénover pour la transformer en habitation, pour une famille entière dans l'idée, qui devait forcément respecter cet esprit-là. Et donc, on a réussi pour le coup à convaincre le client de faire que cette intervention soit faite exclusivement ou quasi exclusivement, chaque fois qu'on a pu, avec des techniques artisanales de construction et des matériaux locaux qui étaient soit géo ou biosourcés. Donc, dit comme ça, on ne s'imagine pas forcément, mais par exemple, cette charpente qui devait être prise à plein d'endroits différents, elle a été avec un élément de renfort en bois qui venait de forêts voisines. Pour donner de la lumière à cet énorme volume qui était l'ancienne grange, qui faisait donc 9 mètres de haut sur 100 mètres carrés au sol, il fallait créer des grandes ouvertures. Et donc ces grandes ouvertures ont pu être créées avec des jambages en pierre massive et des grands linteaux en bois avec des techniques très similaires à celles qui avaient été mises en place pour construire la grange elle-même. On a pu, pour l'isolation, utiliser du chanvre pour la dalle au sol et pour les murs. Donc, on a pu, à chaque fois, les menuiseries sont en bois également, à double vitrage. Enfin, il y a tout un tas de petites actions qu'on a pu faire qui, on l'espère, permettront de rendre, en fait, de donner tout le confort moderne, j'ai envie de dire, à cet endroit, mais sans en dénaturer l'esprit.
Et puis en lui donnant une pérennité.
Et en lui redonnant une pérennité.
Parce que là, il est reparti pour...
Il est reparti et effectivement... L'usage des bons matériaux permet aujourd'hui à ce type de bâtiment de pouvoir repartir longtemps. Parce que si vous appliquez le mauvais matériau sur un bâtiment comme celui-là, imaginons...
Du ciment.
Alors le ciment, parfait.
On voyait ça beaucoup.
Un enduit ciment qui va faire 60, en sorte 60. Que la pierre ne respire plus, qui va se gorger d'eau. Il va y avoir un tas de problèmes qui fait que... Finalement, en fait, on doit aller vers ce type de matériaux pour la rénovation des anciens bâtiments parce qu'il faut recréer quelque chose qui respire, quelque chose qui va tenir dans le temps.
Ouais. Alors, je crois aussi que vous êtes assez fort en réemploi.
Alors, on a commencé à s'intéresser réellement à cette question. Et récemment, avec notre client qui est Kering, on a proposé de créer... du mobilier à partir de matériaux de réemploi et de matériaux biosourcés. Donc, avec une discussion, ça commence par une discussion avec eux et savoir quelles sont les ressources, par exemple, qu'on pourrait avoir quand on est un groupe de mode. Et aussi, surprise, on avait à disposition de la pierre parce qu'ils avaient utilisé cela pour un défilé. Ça n'avait plus de destination. Donc, on pouvait utiliser un matériau qui était de la pierre de 1 mètre sur 1 mètre pour pouvoir créer du mobilier. Ou même, là, on a travaillé carrément avec un bureau d'études qui est le BET Elliott, spécialisé dans l'architecture, pas forcément le mobilier, mais dans l'architecture, dans les matériaux biosourcés, géosourcés. C'est un bureau d'études magnifique. Et ils nous ont accompagnés sur ces questions. Et on a dessiné ensemble, par exemple, des balançoires où... Le lestage de la balançoire, c'est un socle avec les pierres qui sont utilisées. La structure de la balançoire est en bois. Et la nacelle a été créée par des artisans meilleurs ouvriers de France qui font de l'osier, qui font pousser leur propre osier dans leur jardin et qui nous ont... Ils avaient carte blanche, en fait, pour faire une jolie nacelle dans laquelle vous veniez vous asseoir et être balancé. Et à côté de ça, on avait des tables basses, il y avait différents modules qu'on a travaillé aussi à partir de la pierre. Et on a aussi utilisé cette pierre pour faire des façades de meubles. Voilà. Donc c'était vraiment pouvoir réemployer quelque chose qui n'avait plus de destination. Et derrière, l'intérêt de travailler avec des gens comme Elliot, c'est que on a beaucoup discuté de, là on a utilisé une partie, mais qu'est-ce que pourrait faire le maître d'ouvrage du reste? Donc on s'est mis autour de la table, on a discuté, et puis cette discussion a permis de créer un catalogue de qu'est-ce que vous pouvez faire de dalles de pierre de 1 mètre par 1 mètre. On avait fait le mobilier, on peut faire des cloisons, on peut faire des structures porteuses pour faire des pavillons, on peut faire des mouchards à billets, on peut concasser et faire un terrazzo. Enfin, vous voyez, c'était vraiment...
C'est presque infini.
C'est presque infini et...
Du coup, c'est presque une thèse, ce que vous avez fait.
En tout cas, c'est une piste de recherche assez longue et qui nous passionne de plus en plus. C'est-à-dire, qu'est-ce que le matériau presque permet avant que le projet commence?
Alors, il en résulte de très belles nacelles. J'invite les auditeurs à les voir sur votre site. Vous en avez fait combien?
Il y en a quatre.
Quatre. Ouais. Bon, bravo. Et est-ce que vous avez une petite équipe ou vous travaillez tous les deux en binôme?
On travaille tous les deux.
Oui.
Parfois, on est rejoint par les membres de l'équipe. Ça va. Parfois, sa taille va augmenter. Mais c'est vrai que le noyau dur, j'ai envie de dire, c'est plutôt nous deux. Un peu aussi, c'est pas une fin en soi, il faut tout faire pour que ça ne soit pas comme ça pour toujours, mais pour l'instant en tout cas, on a vraiment réussi à mettre en place une méthode de travail par notre complémentarité, par la manière que chacun de nous deux va avoir de gérer plus spécifiquement un projet, tandis que l'autre s'occupe d'un autre. Donc on a réussi à mettre en place un peu voilà une méthode qu'il faut forcément, si on veut continuer à grandir, réussir à ouvrir à d'autres personnes. Mais du coup, ce faisant, on a beaucoup plus pris l'habitude, chaque fois qu'un projet le nécessitait, de créer des collaborations à partir d'un réseau assez étendu, qui va donc aller, comme vous en parliez, d'un Vincent Lavergne et ses équipes avec lesquelles on a travaillé sur certains projets. Parfois, ça va être, par exemple, on travaille actuellement avec Calque Architecture sur un autre projet.
Calque est une très, très grosse agence.
Très grosse agence. Mmh. Un projet comparable de restructuration de bureaux, enfin comparable à celui avec lequel on travaille actuellement avec Vincent Verne, parce que c'est aussi une restructuration de bureaux dans le 92. On va aussi travailler toujours sur des projets plus petits, à l'image de ce qu'on faisait avant, j'ai envie de dire. On n'arrive pas à lâcher l'architecture intérieure. On continue d'être beaucoup trop passionné par ça.
Et j'ai envie de vous dire continuez, parce que vous avez une vraie force.
c'est très gentil.
Non, mais c'est vrai. On sent qu'il y a beaucoup de respect des lieux dans lesquels vous intervenez. Et vous arrivez, je crois qu'il y a un appartement dans le Marais aussi, avec un plafond assez bas. Vous avez réussi à faire une pièce de vie intéressante, vraiment belle, sur quelque chose qui, a priori, n'avait pas vraiment de cachet.
C'est un très beau projet, c'est une très belle réalisation où d'abord c'est un client qui nous a fait confiance et ça c'est très important. Et en plus d'être force de proposition, la communication était fluide. Je pense que c'est important parfois de le préciser, c'est que un bon projet c'est pas que
c'est un bon client.
Choisir la bonne.
D'entre vous le disent.
Ça joue et et donc, c'est le type de client qui vous permet d'aller un peu plus loin. En plus, c'était pendant la période Covid et on a pu dessiner une table basse, on a pu dessiner un bureau. Enfin, voilà, l'idée d'aller un peu tendre vers l'architecture totale quand on travaille un appartement, ça donne envie. Quand vous voyez qu'un Frank Lloyd Wright dessinait les chaises, c'est un peu ce à quoi on aimerait toucher.
C'est un fantasme qui devient réalité. Ah,
exactement.
Et peut-être pas au niveau de Wright encore, mais...
mais donc ce projet, c'est un appartement dans un faubourg qui est le Marais et pouvoir. Il y avait quand même une très belle base, très lumineux, beaucoup d'ouverture. Et voilà, là c'était vraiment une association des matériaux avec le chêne et le noyer d'abord. Ça peut être, on peut le percevoir comme étant une contradiction. En fait, pas du tout. C'est, je trouve, deux essences qui vont très bien ensemble. La pierre, le cuivre aussi. Où les façades d'îlots sont en cuivre et on retrouve toute la robinetterie. Et après, c'est le dessin, c'est voilà des petits détails à droite à gauche et aussi un goût prononcé pour le client qui a su choisir aussi le mobilier qui allait être le plus en harmonie avec ce que nous avons dessiné ensemble. Donc non, là-dessus, c'est une très belle réussite grâce à tous ces éléments. Et pour l'architecture, on a évidemment des projets en cours où on a des permis de construire qui ont été déposés. On a notamment des constructions de maisons en bois dans le sud de Fontainebleau. On a déposé des permis de construire qui ont été accepté avec un projet avec Vincent Lavergne de restructuration d'un immeuble dans l'ouest parisien. Donc là, il y a vraiment de la construction, c'est 3 500 m².
Donc ça y est, vous allez être dans les références adéquates pour continuer et vous lancer vraiment dans cette voie. Alors, l'architecte est justement amené à projeter sur un temps long. Qu'est-ce que vous vous dites chaque matin au démarrage de votre journée pour continuer à tracer le chemin ? Quels éclairages donneriez-vous à tout à chacun pour appréhender le monde dans lequel nous vivons, qui est un petit peu compliqué en ce moment ?
En fait, on a quand même l'impression d'avoir beaucoup de chance parce qu'on aime beaucoup ce qu'on fait. C'est un métier, on a l'impression d'apprendre tous les jours, de découvrir des nouveaux endroits hyper intéressants tous les jours, de découvrir de nouvelles techniques, de du coup acquérir de nouvelles compétences, même une forme d'expertise en fait qui se précise projet après projet, et qui nous permettent en fait même de du coup de proposer des solutions toujours nouvelles. Donc cet échange qu'on a permanent avec, on l'a dit, les artisans, les compagnons, des bureaux d'études, même des clients, nous apprend énormément. Et c'est un peu ce qui, jour après jour, nous donne cette envie et ce plaisir à continuer. J'ajoute que du coup, puisqu'on reçoit beaucoup, c'est très très difficile de trouver du temps quand on est une jeune agence d'architecture, mais on essaie au moins d'en consacrer un maximum pour animer des activités pédagogiques ou participer à des événements qui permettent cette transmission. Donc ça va être, par exemple, on participe actuellement à un programme de mentorat au campus Versailles, qui est une nouvelle structure qui essaie de valoriser les métiers de l'artisanat et du patrimoine, notamment dans les filières professionnelles, pour donc de très jeunes étudiants. On participe aussi à des jurys, parfois, donc de HMO cette année. On essaye de participer à des expositions pédagogiques. On prépare aussi notamment un petit atelier pour des cinquièmes en mars pour leur montrer tout ce qui est intéressant dans l'architecture. Donc, c'est des choses qu'on adore faire et qu'on essaie au maximum d'intégrer dans notre quotidien.
Bon, vous gardez de la générosité.
Oui, exactement. Parce qu'on en reçoit. On reçoit beaucoup de conseils et on aimerait aussi pouvoir apporter quelque chose. On parle du monde de demain et nous, on considère vraiment que demain, si notre activité perdure et qu'on accède à des projets plus ambitieux avec des employés, c'est de pouvoir vraiment offrir du temps et des conseils comme on l'a eu dans nos anciennes agences avant de nous lancer.
Alors justement, quels conseils donneriez-vous aux étudiants en archi aujourd'hui ?
Eh bien, d'abord, c'est de ne pas se créer de barrières. Quand vous faites des études d'architecture, vous pouvez ensuite faire votre HMO. Et je pense que c'est très important de commencer par là. Même s'il n'y a pas encore cette envie naissante de créer quelque chose, la vie est longue. Et donc, ça pourra arriver d'avoir, à l'aide d'une rencontre, de se dire « je vais créer quelque chose ». Et en ayant tous les outils pour le faire, vous pouvez plus facilement sauter le pas. Et c'est aussi prendre confiance. C'est-à-dire que tous les architectes que vous avez reçus ont été étudiants un jour. Donc, les étudiants doivent se dire que il y a effectivement en face d'eux un mont à gravir. Mais exactement comme nous, actuellement, on est en train de le gravir doucement. Mais on part tous du même point de départ. Et puis derrière, prendre confiance, savoir qu'on a une valeur. Quand on sort de l'école, c'est très important.
Il ne faut pas croire tout ce qu'on vous dit.
Ouais, c'est vrai que nous, on nous disait, c'est une phrase qui reste beaucoup, on s'est rendu compte qu'elle nous a marqué, mais qu'elle a marqué tous nos copains, c'est qu'à la sortie de l'école, c'est 5 ans de galère, quoi qu'il arrive. 5 ans à chercher ce qu'on veut faire, à ne pas avoir accès à la commande, à rencontrer toutes les difficultés du monde avant d'enfin avoir une sorte de petite situation et légitimité. Nous, ce n'est pas du tout le ressenti qu'on a, bien sûr qu'il y a des étapes à franchir, bien sûr qu'il y a des plafonds de verre, mais on a quand même l'impression que ça a été un apprentissage complémentaire, hyper enrichissant, où on a découvert tout ce dont on a déjà parlé, la valeur d'un site, la valeur des matières avec lesquelles on travaille, des gens avec qui on travaille. Et donc tout ça, cette découverte-là prend du temps et elle est complémentaire. Elle ne se fait pas en parallèle, elle ne peut pas se faire en parallèle. Et on trouve que c'est très positif de s'en rendre compte avant.
Et moi, j'ai rencontré des gens en agence qui disaient « Non, mais je vais créer quelque chose, j'attends juste encore un petit peu d'expérience. » Mais finalement, l'expérience, c'est au quotidien.
Oui, c'est en vous confrontant.
C'est en vous confrontant. Et là où vous gagnez le plus d'expérience, c'est vraiment en étant seul face à vous-même et à vos projets.
Ben, c'est une généreuse parole. un mot de la fin ?
Merci beaucoup.
Ben, avec plaisir, grand plaisir.
C'était un grand plaisir. On est très bien reçus.
Peut-être à une prochaine fois.
Avec plaisir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.